Un journal présenté ce soir par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Faut-il reconfiner la Guyane alors que l'épidémie de Covid-19 semble accélérer dans la région ? Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, est sur place aujourd'hui à la rencontre des acteurs de la santé, du social et de l'économie.
Les directeurs d'école auront-ils un nouveau statut ? C'est tout l'enjeu des discussions qui se poursuivent entre les syndicats de la profession et le ministère de l'Éducation nationale. Et c'est ce que nous expliquera Hakim Kasmi.
Les émissions de gaz à effet de serre en France sont en voie de diminution. Une bonne nouvelle qui n'est que toute relative puisque la trajectoire de baisse est très timide et ne correspond absolument pas pour l'instant à ce qui devrait être fait pour satisfaire à l'accord de Paris, explication dans ce journal de Véronique Robérotte. Et puis notre rendez-vous l'écho d'après avec Catherine Pétillon, il sera question, vous l'entendrez, de partage des richesses. Situation extrêmement préoccupante en Guyane sur le front du coronavirus. La Guyane où des cas regroupés montrent des phénomènes de propagation communautaire du coronavirus. Résultat, en 2 semaines seulement, le nombre de cas recensés dans la région est passé de 500 à 2600. Sur place depuis hier, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, lance un appel à des renforts médicaux venus de métropole, infirmiers, réanimateurs et médecins. Et elle évoque, vous allez l'entendre, la possibilité d'un reconfinement.
Ici, on parle beaucoup, vous savez, de confinement ou de reconfinement ciblé ou de reconfinement raisonnable, c'est-à-dire par zone. C'est ce qui se fait déjà avec Saint-Georges de l'Oyapock ici, Camopi ou certains quartiers qui sont totalement reconfinés. Alors c'est vrai que quand les Guyanaises et les Guyanais ont vécu 2 mois de confinement et qu'on leur parle de reconfinement, comme c'est à Saint-Georges de l'Oyapock, ça fait plus de 3 mois et demi maintenant qu'ils sont en confinement. Oui, c'est lourd. Oui, ça inquiète. Et oui, vous le savez, ça provoque des tas d'autres difficultés sur l'île, notamment pour ceux qui vivent dans des habitats insalubres, puisque c'est le cas ici en Guyane, ou sur les sujets de d'aide alimentaire, on voit bien que tout ça se pose.
Annick Girardin au micro de Céline Asselot. Le reconfinement en Guyane aurait également évidemment des conséquences économiques. Écoutez Karine Sinaï-Bossou, elle est présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane.
Le tissu économique guyanais est un tissu économique fragile, constitué de TPE. 70% du tissu économique guyanais, ce sont des entreprises avec carrément 0 salarié, moins 1. Donc c'est le patron lui-même qui fait tout. Donc là, on commence à voir au CFE, au Centre de formalité des entreprises de la Chambre de commerce, des entreprises qui viennent pour demander la fermeture de leur entreprise, la cessation, la mise en redressement. Nous, on a fait l'effort d'investir, d'acheter du gel hydroalcoolique, de mettre des PVC, d'acheter des masques. Donc le travail, il est fait dans les entreprises pour respecter les gestes barrières. Et c'est quand les gens rentrent chez eux, et ben on se laisse aller. Ben non, il faut respecter les gestes barrières partout pour que justement on s'en sorte tous ensemble. Donc c'est ce message-là que j'ai voulu faire passer pour que justement les pro-confinement se rendre compte que ce n'était pas forcément l'attitude à avoir. Il fallait trouver une solution ensemble et pour tout.
Des propos recueillis par Mélodie Nourry de Guyane la Première. Le second tour des municipales en Guyane a d'ores et déjà été reporté sine die. Une deuxième école élémentaire parisienne a fermé ses portes ce matin dans le 4e arrondissement, comme pour l'école qui a déjà fermé hier dans le 12e arrondissement. C'est la révélation de cas positifs au Covid-19 qui incite à la prudence, même si nous ne sommes pas là en présence de clusters à proprement parler, affirme l'Agence régionale de santé. À Paris, l'Assemblée nationale continue de son côté à enquêter sur les causes et les conséquences de l'épidémie sur l'ensemble du territoire, notamment pour tenter de déterminer s'il y a eu défaillance de l'État dans la gestion de la crise. Aujourd'hui, c'est au tour de Didier Raoult d'être auditionné en ce moment même à l'Assemblée. Auparavant, 2 anciens directeurs généraux de la santé avaient répondu aux questions des parlementaires, William Dab hier et Didier Houssin aujourd'hui. Aurélie Kiefer.
À la tête de la Direction générale de la santé de 2005 à 2011, Didier Houssin avait eu à gérer les plans consécutifs à la menace de la grippe aviaire et de la grippe H1N1. Face à la pandémie de Covid-19, il constate en France un défaut de préparation. Il faut se concentrer, dit-il, sur les risques avérés, risques de guerre et risques épidémiques. On ne peut pas prétendre être prêt, mais il faut se préparer en permanence et y mettre les moyens. Didier Houssin.
Il faut une volonté politique très forte. Si on a pu se préparer en 2005, 2006, 2007, 2008, c'est qu'au décours de l'exercice pandémie grippale du SGDN, Chirac a dit en septembre « dépenses pour la préparation d'une pandémie grippale, nos limites ». Et ça a créé un boost. Moi, j'ai fait qu'accompagner une décision politique au plus haut niveau.
Sur la question des masques, qui préoccupe beaucoup les députés, Didier Houssin dit avoir été sidéré d'apprendre que les stocks de masques s'étaient évaporés.
Nous avions incité en France à la création d'une industrie de fabrication de ces masques. Le délai de péremption de ces masques avait été porté à 5 ans. Et donc, évidemment, il était sûr qu'ayant commencé à acquérir des masques en 2005, il y avait un certain nombre de masques qui, en 2010, arrivaient à péremption. On n'allait pas donner à des professionnels de santé des masques qui avaient perdu leur capacité de filtration, alors que justement, on voulait leur offrir quelque chose qui leur permettrait d'être protégés. Donc, effectivement, il est très possible qu'on ait enclenché un mécanisme de remplacement des masques les plus anciens. Mais ça ne voulait pas dire j'avais en tête l'idée qu'il fallait supprimer le stock de masques FFP2.
Au contraire, selon Didier Houssin, il faut faire le maximum pour protéger les personnels de santé et leur mettre à disposition des masques FFP2, ce qui suppose un budget sanctuarisé.
Aurélie Kiefer. Un réquisitoire de 2 jours dans le procès du Mediator. Les différents prévenus, et notamment les laboratoires Servier en tant que personne morale, mais pas seulement, ont eu à affronter les longues accusations du ministère public, qui ne sont pas encore terminées. Hier, 3 ans de prison ferme ont été requis contre l'ex numéro 2 du groupe Servier, condamné lui en tant que personne morale à 8,2 millions d'euros d'amende au tribunal correctionnel de Paris, Florence Turm.
Ils appartenaient à une élite scientifique et industrielle et j'ai le sentiment que certains n'ont pas bien saisi ce principe universel pourtant inscrit sur les murs de ce tribunal, la loi est la même pour tous. La procureure insiste sur le niveau de compétence et de formation des prévenus, anciens responsables de l'agence du médicament ou de la commission d'autorisation de mise sur le marché, pour certains anciens salariés des laboratoires Servier, pour d'autres nouveaux conseillers embauchés par le groupe après leur départ des organismes de contrôle. Les laboratoires Servier ont réussi le tour de force de maintenir le Mediator sur le marché pendant 33 ans, avait dénoncé hier la collègue de Christina Moreau. Elle s'attache à livrer les clés de compréhension du système, l'ampleur des liens entre ces instances de contrôle et l'industrie pharmaceutique, véritable culture des conflits d'intérêts. Ces évaluations confiées à des grands patrons, invités réguliers de l'hôtel particulier de Neuilly ou des voyages en Irlande, en Russie et au Brésil, tous ces faits, insiste la magistrate, sont liés aux pratiques du groupe Servier tendant à tisser un réseau d'influence. Elle cite les fichiers, les listes de noms avec identification des cibles, j'insiste, dit-elle, sur le mot cible employé par le groupe Servier, balayé d'un revers de manche les arguments avancés par la défense, les « ce n'est pas moi, je ne savais pas où tout le monde faisait ça ». Pour le ministère public, les preuves sont là de cette perméabilité coupable et il convient de rappeler la loi en prononçant des sanctions sévères.
Florence Turm. Des juges d'instruction vont reprendre les investigations sur les soupçons de conflit d'intérêts visant Alexis Kohler, actuel secrétaire général de l'Élysée. Après une première enquête préliminaire qui avait été classée sans suite par le parquet national financier, une information judiciaire a été ouverte lundi. Elle fait suite à un dépôt de plainte avec constitution de partie civile de l'association Anticor.
Vous qui écoutez le journal de 18h chaque mercredi, eh bien vous le savez, le rendez-vous économique, c'est l'écho d'après.
Avec cette question ce soir, faut-il interdire le versement de dividendes, appeler aux dons ou augmenter les impôts, augmenter les salaires des travailleurs en première ligne, autant de questions qui ont été posées ou reposées par l'épidémie de Covid-19, des questions qui sous-tendent une question peut-être plus large et plus intéressante. À quoi doivent bénéficier les profits des entreprises et qu'est-ce qu'un partage acceptable de ces profits? L'écho d'après, c'est avec Catherine Pétillon.
Salariés, investissements ou actionnaires, à qui, dans quelle proportion doivent bénéficier les profits des entreprises? La question est ancienne, mais si elle a été remise en lumière par le Covid, c'est entre autres parce que la perspective de profits plus faibles rend aussi plus visibles les inégalités. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a choisi de répondre en mettant en avant la participation des salariés aux bénéfices. Un dispositif d'épargne salariale obligatoire uniquement dans les entreprises de plus de 50 salariés et que l'exécutif souhaite généraliser. Une proposition de loi de la députée LREM Olivia Grégoire doit être déposée dans ce sens. Reste que l'épargne salariale est loin de régler la question de l'inégale répartition, estime Patricia Criffaut, professeure d'économie à l'École Polytechnique.
L'intéressement, c'est en plus de leur salaire, en fait. C'est pas ça qui explique le niveau des inégalités globales entre les différentes catégories de salariés, entre les cadres et les non-cadres, etc. Donc, c'est la partie résiduelle, en fait, des inégalités. Et puis, la question de qu'est-ce qui explique les dividendes? Est-ce que c'est simplement le pouvoir des actionnaires sur les managers, sur le partage du profit? Est-ce que les salariés ont vraiment un contrôle là-dessus ou pas? Nous, ce qu'on dit, en fait, c'est qu'il faut mettre les salariés dans les conseils d'administration, faire des positions un petit peu clés, pour leur donner un peu un droit de regard sur la gouvernance, parce que c'est le seul moyen, effectivement, de les intégrer tout en haut de la hiérarchie, pour qu'ils puissent notamment peut-être être dans le comité de rémunération, ceux qui décident de la rémunération des managers, ceux qui ont droit de regard sur la politique de dividendes.
Car c'est bien aux actionnaires que reviennent l'essentiel des profits. Dernier rapport en date, celui publié lundi par l'ONG Oxfam. Il souligne qu'entre 2019 et 2018, la rémunération des actionnaires a augmenté de 70%, celle des PDG de 60%, alors que le salaire moyen des employés ne progressait que de 20%. Les critiques et vives réactions à chaque rapport de ce type montre bien à quel point il y a là un véritable conflit politique autour de cette question, comment partager les profits des entreprises. Xavier Hollande, c'est professeur à Kedge Business School.
Ça revient à choisir finalement, est-ce qu'au fond, on laisse aux entreprises une marge de manœuvre importante pour décider localement, entreprise par entreprise, de quel type de répartition on veut, ou est-ce qu'on oriente un petit peu les choses? Au fond, est-ce que les entreprises doivent uniquement redistribuer de la richesse à leurs seuls actionnaires? Ça, c'est une vraie question. Chaque entreprise, pour chaque PDG, pour chaque gouvernance, mais c'est aussi une question sociétale.
La loi Pacte, votée en 2019, a déjà, à travers une série de dispositions sur la participation des salariés ou les entreprises à mission, amorcé une nouvelle conception du rôle de l'entreprise. Mais les évolutions sont encore lentes.
Pour ça, il faut vraiment que des chefs d'entreprise prennent des décisions courageuses. Et une entreprise qui irait à contre-courant, qui déciderait de ne plus verser de dividendes, d'un peu moins rémunérer ses actionnaires, risque de se faire sanctionner sur les marchés financiers. Là, c'est une décision complexe parce que derrière, c'est aussi le coût du financement de l'entreprise qui se joue, c'est l'indépendance, c'est le fait d'être en situation de fragilité ou pas sur les marchés. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour des entreprises qui ne sont pas cotées sur les marchés. Toutes ces évolutions-là vont demander du temps. C'est pas parce qu'on l'inscrit formellement dans la loi PAC. Il faudra aussi que les pratiques s'alignent au fur et à mesure. Il y a des actionnaires qui sont activistes. Il y a Oxfam qui produit ce rapport. Il y a d'autres rapports produits tous les ans et qui dénoncent. Au bout de quelques années, peut-être qu'on passera de la dénonciation à la construction d'une vision un peu plus commune, un peu plus partagée, une répartition un peu moins déséquilibrée.
C'est finalement la place même et le rôle donné aux entreprises qui est ici interrogé.
L'écho d'après par Catherine Pétillon, à retrouver sur franceculture.fr. Les directeurs d'école pourront-ils bénéficier prochainement d'un statut qui permettrait de voir créer la fonction de directeur-directrice d'école, fonction qui pour l'instant n'existe pas? C'est tout l'enjeu des discussions qui ont eu lieu dernièrement entre les syndicats et le ministère de l'Éducation. Elles étaient consécutives à l'émoi, on s'en souvient, provoqué par le suicide à l'automne dernier d'une directrice, Christine Renon, dans le hall de son école maternelle à Pantin. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Benoît Bouscarel.
Tout cela a abouti à une proposition de loi portée par la députée LREM du Val-d'Oise, Cécile Rilhac.
Reconnaissance, simplification, soutien et revalorisation des directeurs d'école, tels sont les quatre objectifs de ce texte. Il prévoit notamment de donner un vrai statut au directeur d'école en faisant de lui le délégataire académique avec un vrai statut fonctionnel, comme par exemple pour les principaux dans les collèges et les proviseurs dans les lycées. De nouvelles fonctions qui inquiètent particulièrement Marie-Hélène Plard, directrice d'école à Lille-Saint-Denis en 93 et porte-parole du SNUPP.
On est dans une relation qui fait que tout peut se dire et s'échanger sans avoir peur d'être jugé par son supérieur. Si demain je deviens leur supérieur hiérarchique, par exemple, je me vois plus pouvoir déjeuner avec elle. Clairement, il faut que les enseignants puissent garder des espaces de parole libres sans avoir peur d'être jugé par un supérieur sur ce qui peut être dit sur un temps purement personnel.
La proposition de loi prévoit également une revalorisation des salaires avec une prime de 150 euros brut par mois dans les écoles de moins de 3 classes et de 300 euros brut par mois dans les écoles de plus de 13 classes. Ainsi qu'une décharge de temps dans les grandes écoles avec une aide humaine pour les tâches administratives, ce qui était, on s'en souvient, une demande très forte de la part des syndicats, sauf que ce poste devra être financé par les collectivités et non pas par le ministère de l'Éducation. Résultat, les communes les moins riches qui subissent déjà de plein fouet la baisse des dotations depuis des années et désormais la crise sanitaire risque de ne pas pouvoir être en mesure de financer ces postes. Aujourd'hui, rappelons que 4000 postes de directeur d'école restent pour l'instant non pourvus.
Merci beaucoup Hakim Kasmi. En Conseil des ministres ce matin a été actée la date du deuxième référendum sur l'indépendance de la Kanaky, Nouvelle-Calédonie. Repoussé en raison du coronavirus, le vote aura lieu le 4 octobre. Toutes les nouvelles positives sur le front de la lutte contre le dérèglement climatique sont bonnes à prendre. Les émissions de gaz à effet de serre ont légèrement reculé en France en 2019 et la tendance devrait se poursuivre en 2020. Un fléchissement qui est certes un bon signal, mais qui ne doit pas masquer que la France reste loin du compte, très loin du compte, pour tenter de respecter ses engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Véronique Robérotte.
2018, 2019 et 2020 devraient bien être des années de baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. Baisse de 4% en 2018, léger recul en 2019 et recul probable en 2020 grâce à la crise du coronavirus. Trois années de baisse continue qui ne poussent pas pour autant à se réjouir. Face à l'urgence climatique détaillée dans l'accord de Paris, l'objectif de la France d'atteindre la neutralité carbone en 2050 est encore très, très loin. L'estimation de ses émissions en 2019, bien qu'en baisse, reste 4,5% supérieure à ce que prévoit la stratégie nationale bas carbone. Les secteurs du bâtiment, des transports avec le diesel, l'agriculture et l'industrie restent les plus polluants. Les efforts sont notables dans les domaines de l'énergie et des déchets. Le Conseil pour le climat, dans un rapport publié récemment, estimait que l'effort annuel de la France devrait tripler d'ici 5 ans. L'instance indépendante, mise en place par Emmanuel Macron pour évaluer les politiques publiques de lutte contre le réchauffement climatique, constate que la trajectoire française est très insuffisante et le plan de relance qui se dessine suite à la crise du coronavirus ne semble pas vouloir donner une grande place à une transition écologique d'ampleur. Les 150 Français de la Convention citoyenne sur le climat en ont récemment fait à leur tour le constat. C'est une politique des grands pas en matière de climat que la France doit mener.
Véronique Robérotte.
Alors que les frontières s'ouvrent entre pays européens, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, assure que l'Union reste déterminée, Benoît, à protéger ses frontières.
Oui, Josep Borrell était en visite aujourd'hui à la frontière gréco-turque avec son homologue grec, qui a dit craindre une nouvelle vague migratoire encouragée par Ankara, identique à celle de février dernier. Josep Borrell a dit partager ses inquiétudes et il veut tout mettre en œuvre pour arrêter, je cite, cette dynamique d'escalade des tensions. Explication et précision de Marie-Pierre Véro.
Ankara avait alors non seulement ouvert sa frontière, mais convoyé migrants et demandeurs d'asile jusqu'aux portes de la Grèce. La Grèce accuse également les gardes-côtes turcs de se faire passeurs en mer Égée et de dépêcher des embarcations de migrants vers ces îles de Lesbos, Samos ou Chios. Le chef de la diplomatie européenne est donc une nouvelle fois venu apporter son soutien à Athènes et assurer que l'Europe tiendrait ses frontières hermétiquement closes. Les frontières de la Grèce avec la Turquie sont en effet également celles de l'Union. Josep Borrell, qui se dit également disposé à discuter avec le président turc Erdogan. Ce dernier use des migrants comme d'une arme et son chantage impressionne l'Union européenne, il le sait. Le discours de Bruxelles est lui désormais connu, fermeté et fermeture, mais pas un mot des abus que ce discours peut entraîner, notamment ces tirs grecs à balles réelles contre des migrants à la frontière terrestre au printemps. De plus en plus de témoignages et vidéos attestent également du refoulement brutal et totalement illégal de migrants et demandeurs d'asile depuis les eaux grecques vers les eaux territoriales turques, sans que les auteurs de tels actes ne soient inquiétés. Un consortium de journalistes grecs dénonce aussi la disparition de migrants qui accostent en Grèce, mais dont on perd la trace.
Marie-Pierre Véro, première rencontre officielle avec un de ses homologues depuis le début de la crise sanitaire pour Donald Trump aujourd'hui. Andrzej Duda, le président polonais, sera à Washington tout à l'heure. À 4 jours du premier tour de la présidentielle dans son pays, Andrzej Duda semble être de plus en plus menacé par son opposant libéral, le maire de Varsovie. Il appréciera à coup sûr un coup de pouce de son ami Trump à Varsovie, Thomas Giraudeau.
La rencontre ne pouvait pas mieux tomber. Alors qu'à Moscou, Vladimir Poutine fait défiler plus de 14 000 militaires, Andrzej Duda va pouvoir se présenter comme le protecteur des Polonais face aux puissants voisins russes. À Washington, le chef de l'État devrait annoncer en grande pompe, avec Donald Trump, le déploiement de 2 000 soldats américains supplémentaires sur le sol polonais. Duda a cédé aux conditions fixées par son allié. La Pologne paiera la majeure partie des coûts liés au déploiement et accordera une immunité très large aux soldats. Andrzej Duda et son parti Droit et Justice au pouvoir sont prêts à tout pour revendiquer une victoire diplomatique à 4 jours d'un scrutin très incertain. Le président polonais veut renforcer sa légitimité et son bilan sur les plans de la défense et de la politique étrangère, des champs de compétences strictement réservés au chef de l'État. Redonner ainsi du dynamisme à sa campagne, selon les derniers sondages, Duda pourrait être battu par son principal rival, Rafał Trzaskowski. Mais dans le camp du pouvoir, on s'inquiète. L'annonce tant attendue des 2000 soldats aura-t-elle bien lieu? Et est-ce que Donald Trump ne fera pas un énième dérapage en conférence de presse juste à côté du président polonais?
Avant de refermer ce journal en France, le Parti Socialiste, qui ne sait décidément plus où il habite, moins de 2 ans après avoir quitté la rue de Solferino pour des raisons financières principalement, le PS envisage, on l'a appris aujourd'hui, de quitter son siège d'Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne pour revenir à Paris, probablement dans le 9e arrondissement, cité Malesherbes, qui était jusqu'en 74, vous vous en souvenez Emmanuel, le siège de la SFIO. La météo avec des prévisions identiques pour demain à celles d'hier pour aujourd'hui. Vous me suivez? Du soleil et des températures très chaudes avec néanmoins l'arrivée de quelques nuages et précipitations en provenance de l'ouest sur la Bretagne et le Pays Basque notamment.